Je vous remercie d'être venu ce soir donc, à notre troisième soirée consacrée à la bioéthique. Donc, ce soir, c'est le don d'organes qui va être mis en question parce qu'il est aussi concerné par la réforme. Et, donc, il y a beaucoup de notions fondamentales au don d'organes français qui sont mis en question plutôt par rapport à nos voisins étrangers et à des détails comme ça. Et donc, je pense qu'il faut aussi en parler et que chacun puisse s'exprimer là-dessus. Donc, tout d'abord, on va vous diffuser un petit micro-trottoir qui a été réalisé donc, au cœur de Poitiers sur le don d'organes. Voilà.
Vraiment à des personnes qui en ont réellement besoin.
Je demanderai juste comment ça se passe. Quelles sont les démarches à suivre et comment...
C'est bien, pourquoi pas. Ouais. C'est au contraire, si tout le monde faisait ça, je pense que ça aiderait pas mal de monde.
Moi, je suis pour.
Je sais pas.
J'y ai pas trop réfléchi, à vrai dire. C'est vrai qu'on en entend parler, mais j'ai pas réfléchi.
Bon, à mon avis, c'est peut-être une bonne chose. Mais maintenant, moi, personnellement, j'ai pas encore fait trop de démarches là-dessus.
Ouais, je pense que c'est bien, ça aide les gens.
Moi, j'ai pas fait de démarche, mais je pense que c'est exactement pareil. Faut en faire profiter les autres, quoi. Si une fois qu'on est mort, on est mort. Donc.
Personnellement, moi, je serais donneur d'organes.
Oh, pour l'instant, néant. J'y ai pensé, mais j'ai jamais agi.
Pour moi, si c'est possible, je suis en faveur de cette position. En fait, c'est assez difficile de répondre oui ou non. Ça dépend de chaque situation.
Je suis pour.
Complexe.
Moi aussi, je pense que
ça va. Complexe, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il y a une partie, je dirais, de mes positions qui irait en faveur du don d'organes. La partie généreuse, puis il y a une partie, je dirais, plus liée à une appréciation sacrée du corps et dans son unité qui serait plus réticente. Et ces deux dimensions s'affrontent parce que je trouve qu'elles peuvent se justifier toutes les deux. Et en même temps, je pense que quand il s'agit de sauver une vie, je pense qu'au fond, il n'y a pas d'hésitation.
À titre personnel ou familial, non, jamais.
Non, du tout.
Oh, moi, j'étais à l'hôpital, mais on m'a donné, déjà.
Non, jamais.
Personnellement, directement, non.
Pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Non, pour ça que je n'ai pas eu de réaction pour le moment.
Non, du tout.
Je n'ai pas de carte de donneur d'organe.
Non.
Non.
Pas du tout.
Hélas, non.
Non, mais on en a parlé dans la famille. Donc, si ça se produit, mon mari connaît ma position, par exemple. Et ma famille aussi.
Ouais. Elle est dans mon portefeuille.
Mes premières questions à un expert, je dois dire que je n'aurais pas de questions particulières, parce que je ne pense pas qu'il y ait de problème... médicaux qui puissent se poser, c'est plutôt un problème culturel ou philosophique ou voilà ce genre de choses, enfin en ce qui me concerne.
Je vais lui demander des conséquences résultant de chaque don de chaque organe en fait.
Si les organes sont bien utilisés vraiment à des personnes qui en ont réellement besoin.
Je demanderai juste comment ça se passe.
Quelles sont les démarches à suivre et comment les entreprendre?
Exactement, la durée, etc. Les causes après qu'il peut y avoir, etc. Quoi. Tout ça.
Rien en particulier. On est quand même bien sensibilisés, je pense, actuellement.
Pour moi, c'est pas une question d'expertise, c'est une question éthique, donc qui renvoie à chacun et non pas à la parole des experts. Je pense qu'on n'a pas besoin d'experts des fois pour faire son introspection. Et donc, pour moi, c'est pas une question d'expertise.
Monsieur, fait FPO à côté de moi. J'ai changé de prénom. Ma mère m'a donné qu'un prénom. J'en ai changé d'un deuxième. C'est un bon prénom. Merci.
Je vais vous laisser peut-être vous présenter. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. On m'a demandé avant-hier si je voulais bien vous présenter un petit peu et faire une petite introduction avant que vous puissiez débattre avec ces messieurs, dames, sur la question du don et de la greffe. Donc, je vais me présenter, puis je vais faire la petite introduction, puis je vous les présenterai après. Donc, je m'appelle Véronique Bescon et je suis cadre de santé en réanimation au CHU de Poitiers. Et il y a quelques années, j'ai été coordinatrice pour les prélèvements d'organes durant environ 4 ans. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour votre présence à cette soirée consacrée aux dons, dons d'organes, dons de tissus, dons de moelle, dons de soie. Et puis aussi aux résultats qui en découlent, c'est-à-dire la greffe. On l'a entendu sur le micro-trottoir qui a été réalisé. Ces dons relèvent d'un examen de conscience personnelle et d'une décision propre à chacun d'entre nous. C'est un questionnement très complexe, difficile parfois à concevoir, puisque dans certaines situations, il s'agit en effet d'envisager sa propre mort, qui est déjà une grande étape, une étape supplémentaire non moins délicate, de parler de sa propre mort avec son entourage et de se positionner pour ou contre le don d'organes. Alors en France, la loi a organisé, si je puis dire ainsi, les refus. C'est-à-dire que si l'on est contre et si l'on ne veut pas donner ses organes, on a la possibilité de s'inscrire sur un registre national des refus qui garantit la validité de notre décision. Actuellement, c'est-à-dire au 2 mars 2009, donc c'est récent, 75 000 personnes sont inscrites sur ce registre du non. C'est le côté, je vais dire, facile. Si on n'est pas d'accord, on s'inscrit et on est sûr que notre décision sera respectée. Mais lorsqu'on est pour être certain que nos proches, nos membres de notre famille transmettront notre volonté, en est-on certain? Face à une mort brutale, une mort toujours injuste, comment vont-ils trouver la force de répondre à la question qui va leur être posée par les médecins réanimateurs, par les infirmiers coordinateurs? Et si on ne s'est jamais prononcé, on l'a vu aussi dans le micro-trottoir, les gens ont du mal à en parler, si on ne s'est jamais prononcé, nous mettons nos proches face à une situation terrifiante, c'est-à-dire prendre la décision à notre place. Cet aspect du consentement, tel qu'il est décrit dans la loi, peut induire chez les professionnels de santé un questionnement éthique. En effet, les professionnels de santé recherchent la position du défunt à travers le témoignage de la famille. Mais au final, est-ce vraiment le témoignage du défunt ou alors la volonté, l'avis des proches qui est reçue? Au-delà de ces prélèvements chez des personnes décédées, nous avons aussi la possibilité de faire des dons de notre vivant. Des dons de reins à un proche, à un membre de notre famille, ou alors être inscrit sur un registre de donneurs de moelle, avec la possibilité d'être contacté un jour pour peut-être pouvoir rendre service à quelqu'un qui en a besoin. Dans le cas du don de moelle, la décision nous appartient, et là encore, elle est validée puisque nous sommes inscrits sur un registre. Par ailleurs, quels que soient les types de dons, la question de l'anonymat est primordiale. Alors, ce dernier est-il toujours respecté? Les familles de donneurs, les donneurs eux-mêmes lorsqu'il s'agit de donneurs de moelle, ne peuvent-ils pas par recoupement entrer en contact avec la personne greffée? Le questionnement éthique concernant cette loi qui interdit aux donneurs ou à ses proches et aux receveurs d'entrer en contact est-il légitime? En effet, ne peut-on pas imaginer, et peut-être les personnes qui ont eu l'occasion d'être greffées pourront témoigner, ne peut-on pas imaginer un receveur voulant remercier et rencontrer directement la famille d'un donneur, ou même le donneur lui-même? Et enfin, puisque l'on parle de greffe, il faut parler de liste d'attente. L'inscription sur une liste d'attente implique la notion de décès d'un autre. Comment accepte-t-on de vivre en attendant le décès d'un autre pour être soigné? Et comment une personne greffée peut-elle vivre avec l'organe d'une personne inconnue? Donc beaucoup de questions qui touchent directement des principes moraux, des valeurs, sur lesquelles l'État français a légiféré. La vie de plus de 13 000 personnes dépend de ces dons. Donc pour répondre à vos questions, pour partager avec vous, pour écouter vos remarques et vos réflexions, je vais vous présenter donc les intervenants qui sont à cette table ce soir. Donc, le docteur Christine Giraud, qui est hématologue au CHU de Poitiers et responsable de l'activité de thérapie cellulaire. Monsieur que nous appellerons monsieur FRFPO, qui est un monsieur donneur de cellules souches périphériques. Le docteur Michel Pinsard, qui est responsable de l'activité de prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Poitiers. Le docteur Antoine Thierry, néphrologue, impliqué dans l'activité de greffe rénale. Et enfin, monsieur Éric Guillet, qui est greffé rénal depuis maintenant 1999, donc on approche des 10 ans de greffe. Avant de commencer la discussion, je voulais juste vous poser une question. On aimerait tous, un jour, si on avait besoin, sans doute recevoir un organe. Alors, est-ce éthique de refuser de donner ces organes? Le sujet est lancé et je vous laisse la parole avant que vous puissiez échanger avec les personnes ici présentes. C'est toujours difficile de commencer, hein.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette question, et c'est vrai que les médecins qui prennent en charge les patients dans le stade qui précède la greffe, par la force de l'habitude, on a tendance à penser que la transplantation va de soi. Au moment où on commence à parler de transplantation avec le patient, c'est à nous, médecins, d'avoir une relation directe, franche, honnête, sereine avec notre patient pour évaluer, pour donner une information sur la greffe, c'est vrai, mais pour évaluer également son désir de greffe. Sachant qu'il y a deux situations à distinguer, il y a la greffe, les greffes dites vitales et les greffes non vitales. Les greffes vitales, ce sont les transplantations hépatiques, les transplantations pulmonaires, les transplantations cardiaques. Les greffes non vitales, la greffe rénale est un bon exemple de greffe non vitale. Donc pour les greffes vitales, cette question-là se pose relativement rarement, heureusement. Sauf moins, on va dire moins fréquemment que dans la greffe rénale. Dans la greffe rénale, il m'est arrivé de recevoir en consultation pré-transplantation des patients, et après avoir discuté avec eux des avantages et des inconvénients qu'ils pouvaient attendre de la greffe, le patient m'a dit, eh bien, écoutez, docteur, j'ai bien compris ce que vous me dites, mais moi, je préfère vivre en dialyse, parce que je vis très bien en dialyse, la dialyse, c'est le rein artificiel, et il n'y a pas de problème, et on se quitte en bon terme, et bien entendu, à moi de respecter son choix, et de lui dire, la porte sera toujours ouverte si un jour vous changez d'avis. Voilà. Pour les greffes vitales, encore une fois, c'est un petit peu différent. Et moi, je n'ai pas d'expérience de praticien clinicien, vous savez, puisque je m'occupe de transplantation rénale, comme vous le savez. Je pense quand même que cette question est moins importante, mais enfin moins fréquemment posée. Maintenant, est-ce que, en ce qui concerne la greffe, lorsqu'elle est vitale, est-ce que le patient a le choix de disposer de sa propre mort? C'est vrai que c'est une autre, c'est une question très importante.
Et bien aussi, c'est une question éthique.
Et c'est une question éthique, et on pourrait passer la soirée là-dessus. Hein.
Les greffes de moelle peuvent être vitales également, et on a la même difficulté pour aborder les gens, en sachant que l'idée des gens de recevoir des cellules souches hématopoïétiques, ils reçoivent des cellules souches de gens qui sont vivants. Et la problématique psychologique n'est pas du tout la même, puisque lorsqu'il y a rechute de la maladie hématologique et décès, pour les familles, le fait qu'il y ait eu quelqu'un de vivant qui est donné permet en général aux gens de faire leur deuil. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même.
Si le pronostic vital est engagé, donc dans le cas éventuellement de greffe de moelle ou autre, et s'il y a un refus des patients en attente de greffe, finalement, comment ça se passe, vous médecin, comment vous intervenez? Est-ce que vous respectez le choix? Est-ce que vous essayez de pas de forcer, pas de contraindre, mais d'aller plus loin avec la personne, comment ça se passe?
Il y a très peu de refus. En greffe de moelle, compte tenu que les patients connaissent la gravité de leur maladie, et de toute façon, si quelqu'un refuse une greffe, ça ne changera rien de la relation avec lui, il continuera à être traité. Mais ils savent évidemment que quand on propose une greffe de moelle, c'est parce que la maladie hématologique est gravissime et ne peut pas être guérie sans greffe. Donc la relation à un moment donné peut être difficile si les gens vont mal, qu'il n'y a plus de possibilité thérapeutique, mais en fait on n'a pas de refus. Le problème que l'on a, c'est de trouver des donneurs. C'est là le problème.
Au moment de prendre la décision d'accepter une greffe pulmonaire, j'avais été très étonnée que pour l'ensemble des personnes auxquelles je parlais, je ne parle pas de milieu médical, c'était une décision qui allait de soi. Alors qu'en fait, surtout pour une greffe pulmonaire, on sait que c'est un combat difficile et que moi, il ne semblait pas que c'était une décision qui allait de soi.
D'aller de soi pour ceux qui étaient autour de vous parce qu'ils vous aimaient, qu'ils avaient envie de vous voir vivre. Donc obligatoirement, c'est une décision pour eux.
Oui, ils pensaient que c'était quelque chose de simple, comme de changer une voiture.
C'est vrai que pour une greffe rénale, c'est un petit peu le cas. C'est relativement simple, même si c'est un acte compliqué. Mais les complications sont un petit peu moins...
La mortalité globale est moindre, bien entendu, en transplantation rénale. Il y a quelque chose qui est difficile pour les médecins, pour revenir sur votre question. Il y a aussi l'état psychologique dans lequel se trouve le patient. Il y a des maladies. Le patient a eu un long parcours déjà dans les hôpitaux, dans le cadre du suivi de sa maladie. Il arrive à la greffe, par définition, entre guillemets, il est au bout du rouleau. S'il a besoin d'une greffe, c'est qu'il n'en peut plus. Et donc, quelle est la part de découragement et quel est le discernement du patient vis-à-vis de cette décision liée à la transplantation? Sachant que, bien entendu, on n'a jamais greffé personne de force. On n'endort pas les gens à leur insu pour leur greffer un organe. Bien entendu que non, et que le choix du patient doit être respecté. C'est clair. En revanche, au médecin et à l'équipe médicale de montrer tous les arguments, de mettre sur la table tous les arguments pour convaincre son patient s'il ne l'était pas du bien fondé de cette stratégie, de cette proposition. Mais bien entendu qu'il ne faut pas, et on ne doit pas, même si on a parfois ce réflexe-là, considérer que ben, voilà, vous avez une assurance maladie, on va vous faire une greffe, etc. Et il faut écouter son patient, lui présenter la transplantation et l'écouter, bien entendu.
Je voulais parler avant. Oui, alors juste une petite anecdote. En 2005, j'ai donc perdu ma maman. À la suite de ça, j'ai donc j'étais un futur greffé rénal, mais je n'arrivais pas à me décider parce que bon, vu les événements et puis tout ce qui s'ensuit, tout ce qui pouvait s'ensuivre. Donc lors d'une visite médicale, le néphrologue me regarde, il me dit, bon, écoutez, il faudrait arriver à vous décider. Et effectivement, j'hésitais. Bon, je savais qu'automatiquement, il faudrait que je sois greffé. Et puis, à un moment donné, il me dit, écoutez, monsieur, une greffe, ça se demande. Et alors, ma réponse, je lui ai dit, écoutez, vous avez un formulaire, je signe. J'ai donc signé, et puis c'était parti. Et puis c'est tout. Parce que bon, on m'avait quand même préparé à l'avance, mais vu les circonstances, bon, ben j'hésitais un peu. Mais après, il n'y a pas eu de problème. Mais bon, ben voilà, moi je trouve que.
Et à nous de respecter, de comprendre l'hésitation du patient.
Oui, voilà. Moi, c'était, si vous voulez, il y avait une circonstance, c'est que bon, ma mère était décédée, ça m'avait un petit peu. Bon, ben ça m'avait choqué, puis je me disais, bon, ben je vais attendre un peu, mais ben après. Bon, c'est un peu dans ma nature, hein. Moi, j'avance. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment.
Oui, en réponse à ce que vous avez dit pour votre greffe, je crois avoir compris ça. Je vous parle de jeunes, je suis médecin d'enfants, pédiatre. Donc. Il y a des pathologies chroniques chez le jeune qui nécessitent aussi des greffes. Outre le rein, bon, il y a le poumon dans une maladie bien connue, génétique, etc., comme la mucoviscidose. Ces jeunes, déjà, depuis les premières années, vivent leur maladie, en ont conscience, ont mal, etc. Je viens d'une autre région, donc je vous parle de jeunes qui ne sont pas d'ici. Très bien, voilà. Donc, j'appartenais à un groupe de pédiatres pour proposer la greffe cœur-poumon chez des patients atteints de mucoviscidose. Et avec l'équipe de Paris, il y avait tout un travail psychologique d'écoute. Et il y a, je peux vous dire, il y a des jeunes qui ont refusé d'être greffés parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir l'idée d'attendre la mort de quelqu'un. Il se trouve que j'ai connu une jeune en particulier, fille d'amis, qui a refusé. Elle nous a quittés, elle le savait. Mais pour elle, ce n'était pas sa vie, son choix de vie, et ça, voilà. Oui, alors, c'est une jeune qui était mineure, d'amis en particulier spirituels. Donc, je pense que ceci a été fait. Mais c'est pour dire que ce n'est pas simple pour les enfants non plus de se dire cela. Attendre la mort de quelqu'un. Bon. Liste d'attente. Alors qu'il y a quand même tellement d'autres greffes géniales comme celle de Christine.
Une question plus légère peut-être, mais quand même, jusqu'à quel âge peut-on faire des dons d'organes?
Alors, je vais prendre la parole sur ce sujet. Il y a, en fonction de l'âge des personnes, des organes qui pourront être prélevés assez tard. C'est notamment le cas des reins et du foie qu'on peut prélever chez les personnes qui ont jusqu'à 80, 82, 3 ans. Et pour un certain nombre d'organes, on ne peut pas le faire, notamment en ce qui concerne le cœur, les poumons. Et il est évident que pour ces gens-là, on ne dépasse pas la frontière grossièrement de la cinquantaine. Mais pour le foie, les reins, on prélève des personnes qui ont dépassé 80 ans avec des résultats sur les transplantation qui sont tout à fait acceptables, ce d'autant que dans le principe de répartition des greffons, un des critères majeurs, c'est qu'on va greffer en fonction de l'âge. C'est-à-dire que des personnes qu'on va prélever qui vont avoir 20 ans sur des reins, on va les greffer chez des jeunes dans la même tranche d'âge. Pour les personnes assez âgées, c'est la même chose. Et donc les résultats sont tout à fait satisfaisants, sachant qu'en ce qui concerne les greffes rénales, pour les prélèvements qui sont faits assez souvent sur des donneurs âgés, on va greffer les deux reins pour permettre de retrouver une fonction rénale satisfaisante chez le receveur. Du fait de l'altération normale de l'âge, due à l'âge de ces greffons.
Je voudrais juste ajouter deux petites précisions. D'abord, cette question-là, il y a 10 ans, on ne vous aurait pas répondu la réponse que Michel Pinsard vient de vous faire. C'est-à-dire que les choses évoluent très vite et plutôt dans le bon sens. Il y a 10 ans, prélever quelqu'un de 80 ans... c'était un petit peu, c'était déraisonnable. Donc les choses évoluent, et avec l'âge des greffeurs, diront certains. En tout cas, les choses évoluent. Et alors, ça veut dire aussi, si l'âge des donneurs évolue, l'âge des receveurs évolue. Et ça, c'est important pour nos patients, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir 70 ans, une insuffisance rénale, et avoir le droit à la transplantation. Là aussi, il y a 15 ans, ça paraissait inimaginable. Donc c'est vrai que ça implique directement des modifications d'habitudes thérapeutiques pour nos patients les plus âgés.
Ma question s'adresse au docteur Giraud. Vous avez dit que vous aviez des problèmes de don de moelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des limites du don de moelle osseuse? Moi-même, j'ai voulu en donner, je suis trop vieille. Et j'ai cru voir aussi que pour le don de sang, on est en train de déplacer de 5 ans la limite supérieure du don, c'est une bonne chose. Mais pourquoi pour le don de moelle, il y a des limites d'âge?
Alors pour les dons de moelle familiaux, on peut aller jusqu'à... Pour la moelle, je parle. En familial, on peut prélever les gens jusqu'à... La plus vieille personne qu'on a prélevée, c'était 72 ans.
Je vous réponds.
Donc puisqu'en fait, comme disait Antoine pour les greffes de reins, pour les greffes de moelle, l'âge des receveurs a suivi l'âge des greffeurs. C'est-à-dire que quand j'étais jeune interne, à 40 ans, on était vieux pour une greffe de moelle, et avec la pionnière, Madame Bluckmann, qui maintenant a pris sa retraite, eh bien, on greffe en cellule souche hématopoïétique des gens de 65 ans. Donc obligatoirement, voire plus, voire ça 68 ans. Donc ils ont obligatoirement des frères et sœurs qui sont dans les mêmes tranches d'âge. Donc si les frères et sœurs sont en bon état général, donc nous, elle avait presque 73 ans en moelle, et on l'a reprélevé récemment, lymphocyte. En ce qui concerne les greffes de cellules souches périphériques en intrafamilial, on a le droit entre 18 ans et 60 ans, puisqu'il faut donner un facteur de croissance hématopoïétique pour mobiliser les cellules, et donc on n'a pas le droit de le donner chez les mineurs, et on n'a pas le droit de le donner au-dessus de 60 ans, donc c'est toujours l'hypocrisie française, c'est 61 ans moins un jour. Certains vont plus loin, mais nous, dans le service, on a décidé de respecter la réglementation. Donc monsieur à côté de moi est un donneur du fichier, donc on l'a appelé monsieur FRFPO en raison de l'anonymat, et il a fait un don de cellules souches périphériques, et donc là, pour les donneurs fichiers, on a le droit de donner des facteurs de croissance entre 18 ans et 50 ans, donc toujours la même hypocrisie, 51 ans moins un jour.
Vous avez passé les 50 ans.
Voilà, tout à fait. Alors pour le don de sang, à partir de la mi-avril, étant donné qu'il y a 2% seulement de la population qui donne, et que c'est toujours les mêmes qui sont sollicités, et que le renouvellement n'est pas suffisamment important, malgré toutes les campagnes qui sont faites, actuellement, monsieur nous a aidé à en faire une vis-à-vis des étudiants en médecine de la faculté de Poitiers, et ça marche bien. L'âge serait repoussé à 70 ans, les hommes auraient le droit de donner 6 fois par an, les femmes auraient le droit de donner 5 fois par an, mais seraient toujours exclus du don de sang les femmes de petit poids, puisqu'on ne pourrait pas prélever beaucoup et qu'on serait obligé de donner 2 dons pour quelqu'un de 90 kg. Seraient toujours exclus les homosexuels compte tenu des risques de maladies virologiques et les transfusés. Ça ne change pas. Et puis, dans le don du sang également, Dans les derniers textes de loi qui sont sortis, en fait, les gens qui ont une hémochromatose génétique et qui sont traités par saignée, eh bien, auraient le droit de participer au don du sang s'ils n'ont pas de facteur de gravité, s'ils ne sont pas trop vieux, et s'ils n'ont pas de facteur de gravité, donc une cirrhose par exemple. Donc si c'est une hémochromatose sans retentissement, ils vont avoir le droit de donner du sang plutôt que d'avoir des saignées et donc d'être dans le versant malade et qu'on jette ce sang. Si je réponds à vos questions.
Oui, merci.
Pour revenir au sang, je dirais que c'est bien que vous fassiez appel aux donneurs.
C'est bien que vous fassiez appel aux donneurs. Mais réellement, avez-vous les moyens de les assumer? Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis pas donneur de sang, mais c'est ma fille qui se passe beaucoup, comme je suis greffé rénal, la donne très souvent. Et le problème qu'elle a, par exemple, ce matin, elle y va à 10h et elle est passée à 2h de l'après-midi. Bon. Je ne mets pas en cause ni le service ni quoi que ce soit. Je parle pour ceux qui sont pas pour qui sont pas motivés par rapport au don du sang, et j'en ai dans ma famille, qui vraiment, ça c'est une cause, je veux dire, très importante que les gens mettent en avant.
Est-ce que c'est du sang total ou
du sang, une prise de sang normale.
Ça doit pas être sur le site, c'est en collecte.
Oui, non, c'est ce matin, sur le site. Ah oui, non, mais il ne faut pas se cacher la vue, mais je pense. Mais moi, si j'ai fait cet appel-là, c'est parce que je connais beaucoup de gens qui veulent donner du sang, et je crois que vraiment, il manque énormément de moyens à l'établissement français du sang, et c'est là-dessus que moi je veux pour assurer. Ce matin, le problème qui s'est passé, et ça s'est passé très souvent chez elle, malheureusement, ça y est tombé souvent chez elle. C'est parce que ce matin, c'était les plaquettes avant, ce qui fait qu'elle attendait, et chaque fois qu'arrivaient des plaquettes, et il arrivait une heure après l'après-midi, c'est pour les plaquettes, et elle attendait toujours. Bon, elle a attendu, je veux dire, ça ne pose pas de problème, alors on peut toujours dire quand on veut, on donne. Moi, je veux pas, c'est pas une polémique que je veux faire, hein, c'est pour faire avancer le problème. Mais je sais que ça, c'est un gros problème. C'est comme pourquoi l'établissement de sang est ouvert que le matin. Mais je veux dire, si moi, je ne mets pas ça sur les médecins ni les employés, je mets ça sur le dos. Est-ce qu'il ne vous manque pas des moyens, et est-ce que ça ne vaut pas la peine que nous, on dise qu'il vous manque des moyens en tant qu'association? Parce que c'est quand même une chose très importante. Parce que moi, je vois très mal actuellement mobiliser les donneurs de sang et puis qui se retrouvent à attendre une heure ou deux. Et ça, c'est pas, je vous dis, ce n'est pas une chose qui est arrivée une fois. Ah ben non, mais...
Je suis président des donneurs de sang sur l'UFS, non. Donc à l'UFS, ça m'étonne un petit peu.
Ah non, mais vous ne pouvez pas mettre...
Régulièrement, je donne entre 10 et 12 fois dans l'année, donc c'est pratiquement une fois.
Non, mais je ne veux pas faire une polémique. Je dis ça.
Je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est vrai que pour faire des collectes sur l'UFS et aller voir ce qui se passe aussi ailleurs, parce qu'on a aussi des réunions de présidents, c'est vrai que c'est un problème
d'organisation.
C'est un petit peu comme un restaurant, hein. On ne sait pas du tout le nombre de personnes qu'on va avoir. Donc il y a des fois, l'EFS, on dit, bon, on mène une opération avec des scolaires, donc on mobilise les parents derrière, et puis vous allez, donc on le signale à l'EFS, ils vont nous mettre deux médecins au lieu d'un, ils vont nous mettre trois infirmières au lieu de deux, parce qu'il n'y en a personne. On ne sait pas pourquoi. Le coup d'après, ils reviennent avec un seul médecin, on n'a pas fait de campagne plus qu'une autre fois, et puis on aura le double de personnes. Alors là, il y a de l'attente. Il y a des fois, vous avez aussi, pendant 8h30, l'ouverture sur une collecte, vous avez 10-15 personnes, vous avez 1h30 d'attente, forcément.
Donc, c'est pas... Bon, l'EFS a peut-être un problème de moyens. Ça, alors ça,
je suis pas capable de juger.
Mais pour être en relation en permanence avec l'EFS, c'est pas toujours évident.
Je pense, pour voir le travail que fait Marie-Agnès Rigagnot sur le don du sang, je pense que c'est pas facile du tout. D'abord parce que ce sont toujours les mêmes donneurs qui sont sollicités, puisqu'il n'y a pas un suffisamment grand renouvellement des donneurs. Et moi, je vais vous dire, je suis un négatif. J'ai donné très longtemps sur La Rochelle. Quand je revenais, quand j'étais étudiante en médecine, j'étais sûre qu'à Noël, à Pâques, j'étais à peine arrivée pour les vacances, qu'on m'appelait pour donner de mon sang à moi. Donc, c'est évident que les gens qui donnent sont toujours sollicités. Ensuite, on fait des campagnes d'information, puisque les jeunes qui s'occupent de la restauration passent leur temps à appeler les gens. Non. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais, comme dit monsieur, quand les gens vont venir. Et c'est une entreprise comme une autre. Ils sont obligés de ne pas mettre trop de personnel et d'en mettre suffisamment. Il faut savoir qu'il y a un manque actuellement de médecins et d'infirmières. Et que...
Oui, je suis bien d'accord. C'est ce que je voulais que vous me disiez. Il y a un manque de moyens. On est bien d'accord.
Je ne suis pas sûre que ce soit forcément un manque de moyens. Parce que comme disait monsieur, moi je les entends. Il y a des moments quand ils partent à beaucoup de personnel et qu'ils ont 10 dons de sang alors qu'ils imaginaient qu'ils allaient en avoir 50 et que c'est un moment de pénurie. C'est quand même très difficile à faire. Je sais que j'étais de garde il y a un mois. Il y a eu un transfert d'un bébé de Sainte et il y avait, pour être compatible avec ce gamin, un seul culot de ce groupe qui était très rare dans la réserve de sang pour l'ensemble de la région. Et j'ai trouvé que c'était relativement dramatique, sachant que Poitiers, le centre de préparation, je suis venue à 2h du matin pour aller fouiller, pour trouver une poche de sang pour un enfant qui était préma. Je trouve que c'est alarmant. Mais ça, entre le côté alarmant, parce qu'on manque régulièrement de sang, et le problème des moyens, les moyens, je pense qu'ils essaient de les mettre. Mais il est très difficile pour eux d'être sûr que ce qui a été prévu arrivera. J'ai l'impression que pour eux, c'est très compliqué. Moi, je ne m'en occupe pas du tout, donc je suis très à l'aise. Mais je pense que ce n'est pas... Les gens qui s'occupent de collecte de sang, les gens qui s'occupent de promotion du don de sang, moi, je vois pour le don de moelle, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce que c'est le bouche à oreille, c'est la bonne volonté des gens. C'est... Bon, votre fille est engagée, vous avez eu une maladie, il y a une prise de conscience majeure dans votre famille. Moi, je vois quand nous sommes allés ensemble en fac de médecine, on est allés avec un petit patient qui a 8 ans, qui a été greffé de moelle, porter la bonne parole sous forme de témoignage en première année de médecine. Il y avait un nombre de gamins, parce qu'ils ont tous entre 17 et 18 ans, qui n'avaient jamais entendu parler du don de sang, mais qui ont été extrêmement attentifs. Et depuis qu'on a fait ensemble cette information, il y a 5 jeunes étudiants en médecine qui viennent tous les jours donner leur sang. Bon, alors c'est vrai que ça peut entraîner par moments des dysfonctionnements. Il est très clair également que quand il faut prendre en charge des gens pour les plaquettes, parce qu'il y a des patients en hématologie qui ont besoin de transfusion de plaquettes, et bien comme ça dure 2 heures et qu'il y a une forme d'organisation, bah c'est prioritaire, oui c'est vrai.
Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être eu 2 plaquettes de prévues. Au dernier moment, le docteur Rigagnot, on l'a prévenu qu'il en fallait 3 de plus. S'il y a eu un désistement sur une collecte, forcément il ramène du monde et ça bouchonne un petit peu. Ça, c'est... Mais en plus, la durée de vie des plaquettes, c'est 5 jours. Donc c'est vrai que les plaquettes sont prioritaires.
Et puis, il faut dire que bon, pour travailler dans le service d'hématologie, on a eu un nombre de leucémies aiguës extrêmement important depuis le début de l'année. Qui dit leucémie aiguë, qui dit chimiothérapie d'induction, dit aplasie, dit thrombopénie, dit transfusion de plaquettes tous les jours. Et quand il y a autant de leucémies aiguës qu'il y a eu depuis le début de l'année, il y a eu des consommations extrêmement importantes, il est évident que c'est prioritaire. C'est affreux à dire, mais bon, l'estimation, c'est qu'il y a des collègues mobiles à la campagne, comme à Lusignan. Eh bien, il faut mettre une énergie folle pour qu'à Lusignan, ça compense les collègues de sang total pour faire des concentrés globulaires qui ne peuvent pas être faits sur le site de la milléterie, puisqu'ils ont la priorité des plaquettes pour les patients hématos.
Non, mais je ne mettais pas service. Hein. Oui. Non, moi, c'était pour que, au contraire, multiplier les dons et tout ça. Hein. Mais parce que c'est malheureusement une chose que j'entends.
Il manque de sang à longueur d'année.
Oui, je sais bien, mais non, mais que ceux qui donnent. Voilà.
Il y a eu une augmentation sur les 4 dernières années de 12%, de 4% là récemment, hein, c'est ça, pardon. Oui, d'augmentation des cessions de globules rouges, puisque la population française vieillit, et que donc, comme les gens vieillissent, il y a beaucoup plus de gens qui ont des maladies des personnes âgées, et il y a beaucoup plus de transfusions chroniques, donc il y a besoin de plus en plus de dons de sang.
Je crois de toute façon qu'il est toujours désagréable d'attendre. Quand on va chez le boucher, chez le coiffeur, les minutes prennent des heures. Quand on arrive à l'hôpital pour se faire soigner, qu'on est aux urgences, l'attente est interminable. Alors effectivement, quelquefois, et je ne dis pas que c'est le cas de votre fille, monsieur, mais quelquefois, quand on vient faire un don, Et ben on se dit, je viens donner quelque chose, ils demandent, et en plus, il me faut attendre 5 heures. Donc, on a un petit peu de mal, effectivement, à accepter. Je crois qu'il faut se dire que si on donne, c'est parce qu'on pense qu'il y a des gens qui ont besoin, que de l'autre côté de la barrière, ceux qui sont intermittents entre le donneur et le receveur font tout ce qu'ils peuvent. D'accord. Et qu'effectivement, ben, au-delà de l'aspect désagréable de l'attente, je crois qu'il faut continuer à avoir cet esprit de donneur.
C'est-à-dire, c'est quand on porte la parole qu'on a le retour comme ça. C'est pas, je ne mets pas du tout...
Oui, je comprends votre attitude.
Mais c'est le retour de la population qu'on a quand on va la porter. Et ça, c'est par exemple, moi je travaille tous les jours, je ne travaille pas le samedi...
Oui, moi je veux parler, c'est tout autre chose. On a un registre des refus. Bon, nous, quand on est auprès des personnes, par exemple, qu'on leur fait une carte, ils pensent, eux, être inscrits sur un registre d'accord, en fait, hein, comme s'ils disaient oui. Et pour eux, c'est acquis, on les inscrit, ils ont une carte, ils sont inscrits. Que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que s'il serait bon d'avoir un registre des oui, puisqu'on a un registre des non ?
Alors, cette question se pose depuis longtemps. Les législateurs ont tranché. Je vous rappelle qu'il y a une loi en France qui n'a pas été jusqu'à là modifiée, qui est la loi Caillavet, qui remonte à 1976, qui dit que tout Français est a priori un sujet d'honneur s'il n'a pas exprimé son refus par l'intermédiaire du registre national du refus. Donc, il devenait ensuite un peu illogique pour le législateur d'aller faire un registre des donneurs, puisque, a priori, nous sommes tous des donneurs. Alors, il y a d'autres pays qui ont fait le choix inverse. Bon, c'est recevable. L'autre argument qui a été utilisé par le législateur pour choisir le registre national de refus, c'était de penser que quelqu'un qui s'inscrit sur un registre de donneur alors qu'il change d'avis aura beaucoup plus de mal éthiquement pour lui-même de retirer son oui. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Quelqu'un qui, dans un moment de sa vie, a exprimé clairement qu'il ne voulait pas, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on peut discuter à l'infini, peut facilement revenir en arrière parce que c'est un plus dans un sens, c'est une démarche négative dans l'autre. C'est la position des législateurs. Je ne sais pas si ces choses-là vont changer. Mais en tout cas, ça m'étonnerait que la loi qu'il y avait soit remise en cause. Oui, alors, je vais vous donner la réponse tout à fait clairement parce que ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est la position des Espagnols, qui sont actuellement la première nation en termes de prélèvement d'organes, a été, vous êtes tous des donneurs, si vous n'avez pas exprimé votre refus, vous serez prélevés. En France, on n'a jamais eu le courage politique d'aller au-delà de la loi qu'il y avait. Et on s'est empressé dès peut-être 2 à 3 ans après la promulgation de la loi de dire « oui, mais voilà, enfin français quoi ». Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait dans les entretiens quand on voit les familles, c'est demander l'avis du proche. On recherche l'avis du proche pour information. Mais ce qu'on veut pour pouvoir réaliser, c'est l'avis de la personne décédée. Et on prend néanmoins un avis. On ne peut pas faire autrement, on a beau le dire, on a bon leur dire. Oui, oui, on est d'accord. On est bien d'accord, qui ne dit mot consent, c'est ça. Mais ça, c'est dans la pratique, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent, et Véronique Bescon vous l'a dit, on sent bien quand il dit oh, oui, mais il était con de toute façon. Mais vous en aviez parlé vraiment, vous aviez abordé le sujet. Il était contre. Est-ce que c'est vraiment la volonté du défunt ou est-ce que c'est la volonté de la famille? On ne le sait jamais, ça. Donc effectivement, il faudrait revenir à l'application de la loi. Mais ce n'est pas facile de faire machine arrière quand vous avez 1976, hein, d'accord? Il y a 30 ans. 30 ans de passé. Et quand les gens ont entendu dire, parce que il y a quand même pas mal de gens qui ont entendu parler, dire ah bah oui, bah de toute façon, on tient compte quand même de ce qu'on dit nous. Et bien finalement, on tient compte de ce qu'on dit nous, et finalement, c'est nous qui décidons. Et c'est pas facile de revenir en arrière.
Oui. Je me permets, je voudrais répondre à monsieur aussi. Je suis famille de donneur. J'ai perdu mon épouse et on a fait don d'organes, on n'en avait jamais parlé. Et je n'aurais pas voulu, je n'aurais pas accepté que les médecins prélèvent sans mon autorisation. Parce que c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas à la légère. Et ça, je le dis devant ces messieurs. Oui, mais moi, je n'aurais pas accepté, même si cette loi, elle existe, je n'aurais pas accepté. Peut-être, je suis peut-être que vous avez raison, mais moi je reste, moi je vais rester sur ma position. Voilà. D'accord, mais moi je vais rester sur ma position aussi parce que j'estime que la famille doit être au courant de ce qui se passe et ça, je resterai sur ma position.
Le problème, si vous voulez, c'est que la loi existe et un amendement. On ne peut pas être au-delà de ce qu'elle a dit. On est tous des donneurs, si on n'a pas exprimé le refus. Non, il n'y a pas de oui, mais. La loi est claire.
Pardon. En tant que citoyen et engagé dans le France Adot pour le don d'organes et de tissus humains, nous rencontrons énormément de personnes avec des informations, aussi bien auprès des scolaires que des personnes adultes. Et la loi, à notre sens, est suffisante, largement suffisante, comme elle est conçue. Cependant, France Adot réfléchit actuellement et va réfléchir au cours de l'année à instaurer, peut-être, c'est en discussion, un fichier effectivement des donneurs. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, enfin une des principales raisons, même si la loi suffit largement, et puis les relations humaines des équipes coordinateurs médecins autour de chaque cas de greffe, qui sont tous des cas différents, France Adot réfléchit au fait que plusieurs fois, au cours du mois, je ne saurais pas quantifier, chacun de nous rencontre des personnes qui disent « Oui, mais si ma famille est opposée, moi je suis » pour le don d'organes, et je veux m'inscrire sur un fichier qui va imposer à ma famille que mes volontés de don soient respectées. Et France Adot commence à réfléchir sérieusement à ce fichier de donneur.
Alors, je vais répondre à ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous dire pourquoi. C'est que si on fait un fichier des donneurs, on va se trouver avec deux catégories de gens. C'est-à-dire les gens qui se seront inscrits effectivement sur le registre des donneurs, et à mon sens, on va se retrouver à peu près avec la même proportion de gens qui vont avoir une carte, et puis d'autres qui ne seront pas inscrits, mais qui finalement qu'on aurait peut-être pu prélever. Parce que là, il faut se rapprocher effectivement, comme vous le dites très justement, des coordinations. Un entretien bien conduit avec une famille qui arrive extrêmement opposée au don d'organes, vous pouvez tout à fait faire changer la situation. Mais si vous avez une liste de donneurs, vous direz, ah, il n'était pas inscrit sur la liste, donc il était contre. Et là, vous ne pourrez plus rien dire. Donc, il faut faire extrêmement attention. Moi, je suis pour qu'on ne change pas le RNR, il est là, qu'on fasse connaître le RNR, oui. qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité sur ce registre. Que les gens qui sont contre s'inscrivent dessus, qu'on donne tous les moyens pour faciliter l'inscription dessus. Mais qu'on ne multiplie pas les registres avec des registres de refus, des registres des gens qui sont pour. Et puis, comme d'habitude, les gens, ils ne font pas les démarches. C'est sorti du micro-trottoir. On est probablement pour, mais on n'a pas fait la démarche. Mais bon sang, ce n'est pas compliqué d'en parler déjà, qu'on fasse déjà cette démarche et que les campagnes publicitaires, qu'on donne les moyens aujourd'hui à l'agence de biomédecine pour faire des campagnes publicitaires, pour qu'on force les gens à en parler. Je vais être probablement un peu provocateur. Je ne sais pas si vous avez vu quelques publicités, entre guillemets, on va dire quelques petits films qui sont faits en faveur du don d'organes fait par l'agence de biomédecine. Mais c'est navrant. Total et l'agence de et l'agence de l'énergie font beaucoup mieux dans leur publicité, mais c'est pas les mêmes budgets.
Il y en avait une à
20h. Oui, non mais si vous voulez, c'est navrant. Enfin, vous êtes d'accord. Il faut qu'on fasse, si vous allez en Espagne, vous allez trouver cette publicité partout, derrière les bus, c'est gros comme ça. S'ils en parlent pas, les gens, c'est qu'ils sont aveugles. Ils sont obligés d'en parler. Donc s'ils sont obligés d'en parler, ils sont obligés de se positionner à un moment. Mais c'est ça ce qu'il faut qu'on développe. Mais je pense qu'il faut passer par des registres multiples. À mon avis, ça va nous desservir. Et moi, Véronique était coordinatrice. Je pense qu'on partage tous l'idée qu'un entretien qui est d'avance, on pense totalement opposé, on peut tout à fait retourner la situation par un entretien bien conduit, par des gens qui sont des grands professionnels de ce travail-là. Et on a beaucoup souffert en France parce qu'on n'avait pas ces professionnels. Les premières formations extrêmement professionnelles pour tout ça, ça date d'il y a 3 ans en France. Les premières formations professionnalisées, c'est fait par les Espagnols, qui viennent nous enseigner en France, ça date d'il y a 3 ans. On a les Espagnols, ça fait 20 ans qu'ils la font. Il est là le problème.
Un message un peu positif au niveau régional, c'est quand même, il faut savoir que le taux de refus en France est moyen, est de l'ordre de 30%, tu es d'accord Michel, hein,
oui, il n'a pas bougé depuis 12 ans.
Et il n'a pas bougé depuis 12 ans. Bon. Sauf quand même dans le Poitou-Charentes. Oui. Et c'est un peu grâce à toi, c'est pour ça que ta modestie naturelle t'empêche d'en parler. Mais grâce à toi, grâce aux associations, bien entendu, grâce au réseau qui fonctionne. Unissant les différents hôpitaux périphériques, Niort, La Rochelle, Saintes, Angoulême. Bref, grâce à tous ces acteurs-là, le taux de refus a significativement diminué dans le Poitou-Charentes pour atteindre 20% en 2008. Donc on fait quand même mieux que la moyenne nationale, on fait nettement mieux. Il faut continuer les efforts, bien sûr, mais je crois que vous, les associations, les coordonnateurs, le réseau, on peut quand même c'est un petit peu grâce à nous tous. Il faut continuer.
Je crois qu'il y a.
Ce sont des refus déclarés. Oui, des familles. Oui, formulés par les familles. On parle de refus famille. Le taux de registre, de refus sur les RNR est très faible.
Je crois qu'il y a une notion aussi qui est importante à prendre en compte, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de greffe et qu'il y a peu de donneurs. Mais que d'un autre côté, quand on est professionnel de santé et qu'on est coordinateur et qu'on se retrouve face à ces familles en détresse, c'est aussi respecter malgré tout leur détresse et puis elles auront un deuil à faire. Et parfois aller malgré tout, si on se réfère à la loi, il n'a pas dit non, ça veut dire qu'il était consentant. Si l'on se réfère strictement à la loi, ça veut dire aussi parfois empêcher une famille de faire son deuil si elle était profondément, si pour elle, viscéralement, accepter le prélèvement d'organes est impossible. Donc, il y a le côté, effectivement, les besoins, mais il y a aussi tout le côté humain qui est très, très important et la dimension éthique dans cette activité.
C'est dans ce sens-là où je voulais intervenir. Je pense qu'il y a le respect de la personne, des familles. Et puis imaginez qu'on prenne pas toutes ces dispositions et qu'il y a un scandale qui éclate dans la presse. Comment le receveur, la personne qui va être greffée, va pouvoir accepter ça, vivre avec cette greffe? Donc il y a un ensemble d'enjeux qui est très important, quoi. Enfin, la priorité, je pense, c'est le respect de la famille et de la personne décédée.
Excusez-moi.
En fait, j'aimerais éventuellement revenir sur le cas de cette femme qui a été greffée au niveau du visage, une reconstruction. Je ne connais pas bien l'histoire, mais il me semble qu'elle était donneuse d'organes, que a priori la famille était aussi pour le don d'organes, mais quand il s'agit du visage ou de quelque chose qui est que l'on voit, qu'il faut accepter, que on... j'ai du mal à m'exprimer par rapport à ça, mais c'est quand même vraiment difficile de, on a beau vouloir donner ses organes, c'est quand même difficile un jour de devoir prendre la décision de donner le visage de son enfant, de sa femme ou
Alors voilà, bon, si on aborde le problème du don, de ce qu'on appelle pudiquement des tissus composites, parce que à l'intérieur il y a du muscle, de la peau, il y a plein de choses, des os quand on fait des greffes de bras. Bon, les Français sont pionniers dans ce type de greffe, qui sont des greffes extrêmement complexes chirurgicalement, qui par contre ont d'excellents résultats pour des raisons qui sont liées à la qualité de ce qui est greffé, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir un gros traitement pendant les premiers mois, mais très vite on peut supprimer tous les médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs, c'est-à-dire pour faire tolérer le greffon, on peut les supprimer très 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 bas, très vite, parce que finalement le tissu est reconnu et accepté en tant que tel sans avoir besoin d'une immunosuppression profonde. Alors le problème qui se pose, c'est que la première greffe qui a été faite effectivement par l'équipe d'Amiens et l'équipe de Lyon en coordination a été fortement médiatisée, ce qui va à l'encontre des règles éthiques qui régissent le prélèvement. Ça concernait le visage. Il est évident que, comme c'était la première, on savait où ça s'était passé, il y a eu une communication obligatoire entre les deux familles, entre le donneur et le receveur. Donc déjà, une grosse entorse à la première règle éthique. La deuxième chose, c'est que l'équipe chirurgicale a été, je ne vais pas dire violé, mais pas loin, par les médias, pour pouvoir obtenir les informations. Ça a été assez outrancier. Ils se sont comportés vraiment comme des marchands d'images. Mais actuellement, le problème continue de se poser. Nous étions avec mes collègues quelques jours sur ce sujet-là avec l'équipe qui actuellement poursuit ces greffes de visage. On nous a montré 6 ou 7 personnes qui étaient en attente de greffe. On nous a montré les photos des gens et on comprend que pour eux, c'est fondamental. Enfin, on imagine bien. Et ça pose le problème de trouver le visage pour pouvoir les greffer. Car au-delà des compatibilités de tissus, il y a des compatibilités autres, ethniques par exemple. C'est vrai que la deuxième personne qui a été greffée était de race noire. Il faut trouver un visage de race noire. Donc il y a d'autres problèmes qui viennent se poser, qui ne sont pas toujours simples. Et puis il faut trouver la famille qui peut accepter ça. Et je dis bien la famille. Je ne dis pas le receveur. Si on a une carte de receveur, de donneur qui est écrit dessus, en plus vous pouvez prendre le visage si vous en avez besoin, c'est clair. Et pour répondre à la question, une carte de donneur nous permet de passer outre la vie de la famille. Et ça, on n'hésite pas une seconde. Si on reçoit un donneur et qu'on a la carte dans son portefeuille de donneur, la famille dit nous on est contre, on passera outre. Parce que là, c'est la volonté du défunt. Elle est clairement exprimée, elle a été notée sur une carte et signée. Donc je vous dis, c'est pour ça le registre, bon, enfin, on ne revient pas dessus. Pour ce qui concerne le visage, bon, les familles, elles pensent, même si elles sont favorables, elles pensent don d'organes, c'est don d'organes internes. Déjà, on a beaucoup de restrictions quand on parle de cornée, parce que pour eux, c'est les yeux. Les yeux, c'est la vue, c'est l'âme, un peu quelque part, donc déjà ça passe, on a beaucoup de restrictions sur les cornées. Alors, on a bon expliquer que c'est pas, on n'enlève pas l'œil, rien du tout. Bon. Mais quand on parle du visage, faut être assez sûr de soi et avoir une famille en face qui est réceptive à cette demande. Et c'est pas évident. Et pour tout vous dire, actuellement, très peu d'équipes de coordination se sentent les épaules suffisamment larges pour pouvoir le faire. Parce que cette demande est difficile. Parce qu'aujourd'hui, ça a été médiatisé qu'au travers de cette première greffe, mais sans autres explications. Et notamment, on n'a pas montré la restitution du visage sur le donneur. Et nous, on a pu la voir lors de la première greffe qui a été faite à Amiens. La reconstitution du visage chez la personne décédée, je peux vous assurer, on a été plusieurs à voir les images et le film, la photo faite avant le prélèvement et la photo faite après le prélèvement et la reconstitution, on ne voit aucune différence. Les masques qui sont refaits sont des masques en silicone, où les prothésistes utilisent les mêmes teintes pour pouvoir qu'il n'y ait aucune différence de teinte. On remet un duvet pour avoir la même sensation au toucher. C'est un travail qui prend entre 4 et 6 heures et qui va demander 10 heures au total de remodelage. Et ça, c'est important parce que si la personne, la famille en tout cas, était favorable ou accepte finalement ça, c'est la question qu'ils vont poser. Mais dans quel état on va le retrouver ? Quand vous retirez la moitié, voire un visage dans sa totalité, on s'imagine bien qu'une famille puisse refuser. Après, il y a les deux autres problèmes éthiques qui se posent, c'est comment va vivre le receveur avec le visage de quelqu'un d'autre. Et ça, pour l'instant, on n'a pas l'expérience. On a deux personnes. On a le témoignage de la première et du deuxième qui semblent ne pas poser de problème, mais ça peut en poser. Mais il faut savoir une chose, c'est que le visage qui est prélevé, qui garde toutes ses caractéristiques pendant plusieurs mois chez le receveur, va finalement se remodeler complètement sur le squelette osseux. Et au bout d'un moment, on est beaucoup plus proche du visage de la personne qui vient d'être greffée que du visage du receveur. Et quand on voit les photos aujourd'hui de cette première personne greffée, on revoit plus du tout l'image des photos qui avaient été faites un an ou un an et demi après la greffe.
Ouais, moi, je voulais juste revenir un petit peu sur le fichier de donneur, là. À mon sens aussi, c'est très, très dangereux, un fichier de donneur, parce que l'exemple est simple. On a 75... Ah. Bon, bah, c'est fini. Non. On a 75 000 personnes inscrites sur le registre national des refus, alors qu'on est sûr qu'en France, il y a plus de 75 000 personnes qui sont farouchement contre le don d'organes, sur 60 millions... d'habitants, il y a plus de 75 000 personnes qui sont farouchement contre le don d'organes. Or, ces personnes ne font pas l'effort de s'inscrire sur ce registre. Si on avait un registre de donneurs, on pourrait très bien imaginer que des personnes qui sont pour ne fassent pas également l'effort de s'inscrire sur ce registre-là. C'est le problème qui se pose avec le don de moelle. On a un fichier qui est insuffisant et il faut faire une démarche volontaire pour s'inscrire et les gens ne le font pas. Moi, le premier, je suis favorable au don de moelle, mais je ne suis pas inscrit sur ce donneur, sur ce registre. Donc, il risque de se passer le même problème avec le don d'organes. Est-ce qu'on doit prendre le risque de voir notre activité s'écrouler parce qu'on veut changer le principe de la loi ? Ça, c'est une première interrogation. Après, quelle va être la légitimité de ce registre-là ? Parce que le registre de l'agence, le registre national des refus, il a une légitimité, il est tenu par l'agence de la biomédecine, qui est une agence d'État. Là, on se retrouverait face à un registre de donneurs volontaires tenu par une association militant pour le don. Il peut se poser la question de la légitimité de ce registre. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte dans la création d'un registre de donneurs par une association et également dans la suppression d'un registre des refus au profit d'un registre des accords. Et est-ce qu'on doit s'exposer aux problèmes auxquels sont exposés le don de moelle ?
Le don de moelle en France pose un problème majeur, étant donné qu'il y a 160 000 personnes seulement inscrites. Initialement, le registre de France Greffe de Moelle, c'est une association de loi 1901 qui était au niveau de l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui avait été montée à la fois par M. Jean Dossé, qui a eu le prix Nobel pour la découverte du HLA, et par M. Jean Bernard. Ce fichier fait partie maintenant intégrante de l'Agence de la biomédecine. Depuis 2004, il y a ce qu'on appelle le plan greffe, c'est-à-dire qu'on doit inscrire 10 000 nouveaux donneurs par an sur une période de 10 ans pour être moins tributaire des greffons étrangers. Il y a 2 ans, on a atteint nos objectifs. L'an dernier, c'était une vraie catastrophe, ce qui fait que les associations de malades ont totalement critiqué la façon de s'y prendre, que ce soit de l'Agence de la biomédecine ou de l'Établissement français du sang, et sont en train de forcer, en fait, l'État à accepter d'évoluer dans sa façon de faire en créant cette année le don de moelle comme grande cause nationale. Et ceci est emmené par les associations de malades qui sont épaulées par le fichier allemand, qui est constitué complètement différemment du nôtre, puisqu'en Allemagne, il y a 3 millions de personnes qui sont inscrites, avec une politique pour inscrire les gens tout à fait différente de la nôtre, c'est-à-dire que nous, il y a des spots une fois de temps en temps, les gens sont informés du don de moelle quand ils vont donner leur sang. Bon, nous, on a fait des campagnes vis-à-vis des étudiants en médecine, mais ils ont la trouille de s'inscrire. Et les Allemands, en fait, le grand fichier allemand, il passe dans les villes avec l'équivalent du serpent d'air, c'est-à-dire qu'il arrive avec des camions, il fait une information dans toute la ville. Et suite à cette information, en fait, une sorte de grande tente où il y a des médecins bénévoles, des infirmières bénévoles, les gens s'inscrivent, on fait leur groupage HLA. Et ensuite, eh bien, les Allemands, ils sont différents de nous, ils donnent 50 euros pour qu'on puisse faire leur étude biologique, alors que nous, on considère que tout est, puisqu'on est volontaire, qu'on est bénévole, ça doit être gratuit. Eh bien, les associations de malades actuellement, emmenées par l'association Lorraine Fugain, sont en train de vouloir faire modifier ça complètement, de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus de donneurs, et que la France ne soit pas tributaire d'acheter ses greffons extrêmement chers à l'étranger. J'aimerais bien faire comme si UFR-FPO dise comment il s'est inscrit.
Oui, justement, avant que M. Attarine, justement, la question était pour lui par rapport à ce que dit Laurent. Tout le monde, enfin, Laurent dit je suis donneur, enfin, je suis favorable, mais je ne suis pas inscrit. Moi, je suis favorable aussi, mais je ne suis pas inscrite. J'ai ma carte de donneur d'organes parce que, comme tout le monde, j'espère que je vais mourir, mais le plus tard possible. Donc, pour l'instant, j'espère que je ne risque pas grand-chose. Par contre, effectivement, si je m'inscris sur un registre de donneur de moelle, peut-être que demain, ils vont m'appeler. Et là, du coup, le questionnement devient plus important. Donc, comment fait-on, monsieur ? Comment on prend la décision ? Et puis, surtout, est-ce qu'après, on n'a pas envie de savoir est-ce que ça a marché ?
Mais en fait, si vous faites la démarche et vous inscrire, le jour où vous allez être appelé, vous allez être contente. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez plus de chances de ne pas être appelé que de l'être. Et il faut déjà intérioriser ça. Je crois que c'est une chance sur 1 million, en dehors du cercle familial. Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, enfin, c'est une démarche que j'ai entreprise de manière complètement individuelle, quasi égoïste, si on veut. J'ai la chance d'avoir dans ma famille aucune personne qui n'a souffert de leucémie ou de maladie de sang. Je pense que malheureusement, enfin, dans les bataillons de donneurs volontaires, on a des gens qui ont été touchés de très près. Enfin, on le voit avec les associations Lorraine Fugain. Moi, j'ai été donné mon sang, j'ai vu les informations sur le don de moelle osseuse. Dans l'environnement géographique de la région où j'étais à ce moment-là, je m'excuse, je vais mettre un point d'honneur à ne pas vous donner d'indication de date et de lieu sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai fait, pour aller au bout du respect de l'engagement d'anonymat que j'ai pris à ce moment-là. J'étais confronté via les médias des familles qui ont souffert de ça. Je donnais mon sang, et puis un matin, je me suis levé, j'ai dit, j'y vais. Et c'est vrai que c'est un peu parcours du combattant. Enfin bon, j'ai quand même pris rendez-vous, je dis, je vais être donneur de moelle osseuse, et on vous remet un dossier qui faisait peut-être à l'époque 7 ou 8 pages. Le premier couac, c'est que devant moi, un monsieur faisait la même démarche, et il s'est levé, il a pris le dossier, était voir le secrétaire de l'EFS, la ville où on était, il a dit, je m'excuse, je ne peux pas. Donc, moi, j'avais presque fini de lire le dossier, je me suis dit, j'ai dû louper un paragraphe, enfin, il y a un truc énorme que j'ai pas vu, il y a un loup, quoi. Donc, j'ai relu, et rien ne me semble insurmontable. Enfin, quand je dis rien ne me semble insurmontable, c'est qu'il faut savoir vous engager à aucun moment de demander de compensation d'indemnité financière sur la démarche que vous faites. Vous engagez à aucun moment à chercher à connaître l'identité du receveur, à savoir ce qui lui est arrivé. Donc une fois que vous avez validé ça, bah, donc vous signez, on vous prélève, enfin, on vous répertorie en fonction de votre groupe HLA, et puis voilà, vous êtes dans le fichier de France Grève de Moelle. Puis des fois, il va se passer une vie et vous n'entendrez jamais parler d'eux, puis eux n'entendront jamais parler de vous. Des fois, il va se passer 20 ans, bon, il s'est passé un certain nombre d'années, puis ils m'ont écrit, enfin, j'ai reçu une lettre chez moi, un truc voilà, enfin, assez simple, donc je me suis représenté, on a refait des examens complémentaires, il se passe quelques mois, et puis on est arrivé à l'intervention finale, et j'ai été prélevé par une équipe médicale super sympa, enfin, voilà. C'est comme dans un rêve, quoi. Et puis, j'ai mes poches de moelle osseuse qui sont parties, je ne sais pas où. En France, en Europe, dans le monde. Et puis, est-ce que ça a marché? Ben, j'en sais rien. Voilà.
Et moi non plus, je ne sais pas si ça a marché, puisque nous non plus, nous ne savons pas. En fait, on ne sait jamais que ce que deviennent les cellules qu'on a prélevées. Alors, par exemple, si nous, on prélève pour l'Allemagne, l'Allemagne va nous demander des comptes et tous les 6 mois, je vais recevoir un papier pour, par exemple, si j'ai reçu pour savoir si le malade est toujours vivant ou pas, s'il a fait des complications ou pas, alors que dans le fichier français, on ne demande rien.
Contrairement au don d'organes, on ne peut pas avoir de nouvelles des receveurs.
Non, on n'a aucune nouvelle des receveurs. Alors, on a eu un couac à Poitiers. C'est qu'en fait, il y a 3 ans, il y a un receveur de moelle que j'avais prélevé à Poitiers qui est venu me voir en m'appelant cousine en me disant qu'il était content de me voir. Et j'ai refusé de lui donner les coordonnées de son donneur. Et en fait, ils sont revenus l'année après, bras dessus, bras dessous. Et on sait enfin la vérité, c'est qu'en fait, le donneur avait donné dans un livre qu'il avait offert une petite indication. Donc, même si l'hôpital a travaillé avec moi pour qu'on anonymise tout, les donneurs, quand ils viennent à Poitiers, donc monsieur comme les autres, rentrent en étant monsieur FRFPO, mais qui sont un homme ou une femme, et on met leur vraie date de naissance. On met comme lieu d'habitation de la botthérapie cellulaire. Ben, malgré ça, malgré tous les efforts que l'on fait, ben, c'est toujours l'humain qui rentre en ligne de compte. C'est vrai que le jour où ils sont venus tous les deux, je trouvais que le donneur avait l'air très gêné. Je pensais qu'il était gêné parce qu'il avait été retrouvé. Non, il était gêné par rapport à moi parce que je lui avais vraiment dit que c'était un don bénévole, anonyme, volontaire, gratuit et tout. Et que, quelque part, il avait été, pour des raisons qui correspondaient à sa vie propre, il avait été incapable de donner sans aller jusqu'au bout de son don, sans savoir pour qui donner. Et c'est quelque part, c'est quelque chose qui correspondait à son passé. Monsieur, en fait, FRFPO, puisque c'est comme ça, en fait, que je l'ai présenté l'autre jour en fac de médecine, ce qui fait que ça nous a fait rire, on continue comme ça. C'est beaucoup plus facile de prélever quelqu'un qui a une information à donner. C'est comme quand les jeunes, j'ai prélevé 2 jeunes gens, une fille de 25 ans et un garçon de 20 ans. Ils étaient allés dans une grande surface, ils avaient vu de l'info, ils sont inscrits, ils avaient un groupage HLA fréquent, donc ils ont été appelés rapidement, ils ont donné, il y a une fille qui a donné un mercredi en moelle, le samedi elle faisait un biathlon, je ne l'ai pas oublié, c'était tout à fait normal, elle était heureuse, elle était contente de donner, je pense qu'elle me dit, bon ben, je vais continuer ma vie maintenant. C'est plus facile de prélever un donneur du fichier que de prélever parfois un donneur familial, hein. Quand on prélève en familial, on a la psychologue du service d'hémato qui nous aide, parce qu'à l'occasion d'une leucémie, d'un don de cellules, il y a pas mal de choses de l'enfance qui remontent. On ne s'entend pas toujours avec ses frères et sœurs. Moi, je n'ai pas le pot d'en avoir, mais bon, vu ce que j'entends depuis des années en hémato, les gens ne s'entendent pas forcément entre eux. Ça m'arrive d'annoncer à des frères et sœurs qu'on a dans le service d'hémato un membre de leur famille parce qu'ils ne sont pas parlés depuis des années. Ça peut être à cause de cataclysmes dans l'enfance avec la parent. Ça peut être des causes d'héritage, souvent. Donc je téléphone à quelqu'un, j'annonce que son frère ou sa sœur a une leucémie, je leur demande s'ils acceptent de faire une étude d'un groupage HLA, je me fais bien accueillir ou pas. Ensuite, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui ont donné sans vouloir voir leur frère ou leur sœur parce qu'ils donnaient pour pouvoir se regarder dans leur glace et pour pouvoir continuer à vivre, alors que les problèmes qu'il y avait eu en intrafamilial étaient tellement graves qu'ils étaient incapables de se reparler. J'ai prélevé des cellules à des gens qui étaient en gynéco, puisque nous, les prélèvements de moelle se font en bloc de gynéco, avec un patient qui était en hémato. Ils ne se sont pas vus. Donc, c'est vrai que les donneurs du fichier comme monsieur, c'est plus facile parfois. Et c'est une démarche qui est plus facile, peut-être, même sur le plan éthique, puisque quand je téléphone à un frère, à une sœur, en lui disant « Eh bien, votre frère ou une sœur a une leucémie, c'est une leucémie extrêmement grave, il n'a aucune chance de s'en sortir, son groupe HLA est relativement rare, et on sait qu'on n'aura pas de chance de trouver un donneur dans les fichiers, acceptez-vous ou non de donner ?» Quelque part, ils sont coincés, hein, parce que je leur dis. Donc, ils se sentent obligés de donner. Bon, il y a une seule fois un monsieur qui a refusé. Et bon, depuis, les grèves dans le service d'hémato, on en fait depuis 84. Moi, ça fait des années que je m'occupe des relations familiales et des prélèvements des cellules. Et je trouve que ce n'est pas toujours facile. Sur un plan éthique, ce n'est pas toujours facile pour moi d'appeler des gens qui ne se voient plus.
Nous allons devoir arrêter le débat afin de libérer la salle. Juste une dernière question aux différents intervenants avant de conclure. Une réponse courte, s'il vous plaît. Que pensez-vous de la révision des lois de bioéthique ?
Je commence. Pour ma part, je pense qu'il est... On peut pas tout marchandiser. Je ne sais pas si le terme se dit, d'ailleurs. Enfin, je pense que le corps humain n'est pas une marchandise. Donc, pour moi, il est indispensable qu'il reste gratuit. Bien sûr, anonyme, parce que ça peut engendrer des choses très complexes entre les relations entre receveur et donneur. Parfois, ça peut être quelque chose de merveilleux, mais on ne sait pas. Et puis, la troisième chose, je pense qu'il est indispensable de respecter les personnes. Et pour ça, il faut que les personnes aient puissent donner leur accord. Et c'est indispensable. C'est tout.
Alors, pour être très court également, on n'a pas du tout parlé ce soir. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé du donneur vivant en ce qui concerne la transplantation rénale. La révision des lois bioéthiques va dans le bon sens à l'égard de ce type de don, puisqu'on élargit maintenant le cercle des donneurs potentiels, aux cousins germains notamment. Il faut savoir que donner un rein pour quelqu'un de sa famille, ça reste encore un parcours du combattant pour le donneur. Il faut être très motivé, il y a tout un tas d'étapes. C'est le parcours du combattant. Et donc la révision des lois bioéthiques améliore un petit peu la situation, mais il reste beaucoup de travail à faire.
Pour ma part, vous l'avez compris au travers de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas favorable à ce qu'on change grand-chose. C'est-à-dire qu'on garde les grands principes éthiques, les principes généraux de la loi de 2004, et notamment en ce qui concerne la non-patrimonialité du corps, c'est-à-dire que la gratuité soit absolument maintenue. L'anonymat également, je suis aussi fondamentalement attaché à ça. Et bien sûr, il faut rajouter les principes de sécurité sanitaire. Par contre, j'ai personnellement une requête sur ces révisions de la loi, elle ne sera peut-être pas entendue, c'est qu'aujourd'hui on rencontre une importante difficulté. On n'a pas assez de donneurs, ça c'est clair, mais aussi on ne sait pas améliorer forcément la qualité des greffons. Et pour pouvoir améliorer la qualité des greffons, il faut qu'on puisse faire des études cliniques chez les donneurs. Ce qu'on fait en pratique courante chez les gens qui sont soignés dans tous les hôpitaux, parfois on propose de participer à des études cliniques pour faire avancer les choses. La loi actuellement est tellement mal faite qu'elle interdit de faire une recherche clinique correcte sur le donneur. Non, je parle du donneur décédé. Et justement, la loi actuellement dit que pour faire une recherche clinique biomédicale sur un donneur décédé en état de mort encéphalique, il faut avoir son consentement écrit explicite rapporté par la famille. Et les gens ont éventuellement une carte de donneur, mais n'ont pas forcément la carte qui dit « j'autorise à ce qu'on fasse des études cliniques une fois que je serai mort ». Et ce qui fait qu'on ne peut pas les faire. Et tout le monde actuellement bute sur ce problème, non seulement au niveau français, mais au niveau européen. Et on ne peut pas faire avancer tout un tas de recherches qui, on le sait, permettraient certainement d'améliorer la qualité des greffons.
Quel genre de recherche ?
Les recherches cliniques qui permettent, lorsque l'on va modifier éventuellement ou introduire certains traitements chez le donneur, de stabiliser son état mieux qu'on ne le fait actuellement, même avec les techniques de réanimation les meilleures, permettent de stabiliser l'état et donc d'améliorer la qualité des greffons qui vont moins supporter les grandes variations que subit un donneur au moment de sa mort encéphalique.
À travers l'expérience que j'ai vécue, je suis
farouche défenseur de l'anonymat. C'est une chose qui pose beaucoup de questions aux gens avec qui j'ai pu parler du nom de moelle osseuse, parce que forcément on a envie de savoir. Et ben, moi, non, je vis avec l'illusion de ce qui s'est passé, peut-être pas passé. Et pour le reste, je ne peux que vous inviter à réfléchir, à vous informer et à prendre position.
Merci pour votre aide, puisque je sais que vous nous aidez énormément et que vous êtes prêt à continuer, puisque monsieur s'est engagé à venir nous aider pour la promotion avec un jeune patient, et je trouve que c'est très bien. Il faut des gens comme lui pour qu'on puisse continuer. Et je vous...
Bien, merci à tous pour votre participation. Ceux d'entre vous qui n'avaient pas réfléchi puissent peut-être réfléchir après les interventions qui ont eu lieu ce soir. Et bonne soirée à tous.
On a besoin d'hommes jeunes.